Vous écoutez
RMC.
RMC.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
À thème, il a mon portable qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok ? Allez, ciao, bonne soirée.
J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr, en direct sur RMC, en direct sur Afterfoot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'after. On est partout dans l'after, première radio de France ce soir, vous le savez, avec Walid Acherchour qui est là. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Et attention, on s'est dédoublé ce soir puisque au stade, à Monaco, nous avons Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Et Aurélien Tirsin, salut Aurélien.
Salut Gilbert, salut les amis.
Monaco bat Marseille 2-0.
Je m'attendais à voir Jean-Louis, moi, mais il rentrera jamais de vacances ou quoi, Jean-Louis ? Il fait plus les gros matchs, ça y est, il a été regardé.
Demain, il est là.
Non, j'ai rien contre Aurélien.
Ah, si, j'ai vu ta déception, Daniel. J'ai vu ta déception, Daniel.
Mais bon, je m'attendais, moi, je sais pas, Monaco-Marseille, Jean-Louis en triomphe à Louis II. Et non, il est pas là.
Est-ce que tu sais que Aurélien serait le Mumbania de Jean-Louis ?
Non, les gars, je refuse ça.
Non, alors moi je veux bien vanner, chambrer et tout, mais là ce serait une insulte.
Merci.
2-0 pour Monaco face à Marseille, 3-2 pour Rennes face au Mans, 3-0 pour le Paris FC face à Nice. Voilà le résultat Ligue 1 du jour. Évidemment, le 32-16 est ouvert. On va consacrer l'after en quasiment à 100%, enfin en tout cas en grande partie à Monaco-Marseille. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Notre numéro WhatsApp est également disponible, 06 12 424 424. N'hésitez pas à nous écrire. On démarre avec les 3 points. C'est parti, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Walid.
Le premier point, c'est l'Olympique de Marseille. Une situation effrayante. Un match effrayant. Et on va ouvrir plusieurs tiroirs parce que moi, j'ai des gros doutes sur la suite de la saison. J'ai très, très peur d'une saison niçoise comme l'an dernier. Mon deuxième point, c'est Monaco. La belle surprise avec un Paris Brunner qui m'a régalé. Un Lamine Camara qui va sûrement partir et qui nous a laissé un dernier héritage de ce qu'il a pu faire en Ligue 1. Mais Monaco avec Philippe et Louis, j'ai envie de voir ça cette saison. Et mon troisième point, c'est Rennes. Rennes qui, moi, m'a inquiété défensivement, offensivement. Ils ont eu toutes les peines du monde à gagner face à une équipe du Mans valeureuse avec un entraîneur qui fait du très bon travail. Mais Rennes, attention à l'équipe surcotée cette saison.
Daniel, tes trois points.
Le premier, c'est le Brunner Show. Il faudra qu'on parle deux minutes de ce joueur. Bah, évidemment, je suis comme Walid, il m'a régalé ce soir. Mais c'est un mec qui était au club quand même l'année dernière et qui ne jouait pas. On en parlera quand même deux minutes de ces fameuses histoires de contexte et de moment pour qu'un joueur soit à l'aise. Bon, il est très jeune. Hein. Le deux, c'est l'OM, le grand flou. C'est le grand flou sur le terrain, c'est le grand flou en coulisses. Et puis, il y aura un point à faire sur ce qui va se passer d'ici mardi. Et le troisième point, bah, Walid a choisi Rennes. Moi, je vais prendre l'option Paris FC parce que j'attendais évidemment ce premier match. Le premier m'avait pas plu. Là, ça a été net. Même si c'est Nice et que Nice, cette année, il faut s'attendre à rien de cette équipe-là. Le 3-0, je l'ai trouvé propre.
Voilà pour les trois points. Alors, on va ouvrir. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va ouvrir le dossier Marseille, bien sûr, à 23h, avec beaucoup de choses à dire. Démarrons quand même par le club vainqueur. Leader de la Ligue 1 ce soir, c'est Monaco, qui est la seule équipe qui a gagné ces deux matchs. Ils ont 6 points, les Monégasques. On se rend compte que, mine de rien, il y a quand même une équipe. Hein, quand t'as Ablin, Biret, qui... peuvent rentrer, enfin bref, c'est quand même un effectif qui est pas trop mal.
En plus de la révélation du soir Brunner, donc ça veut dire qu'en gros t'as trois potentiels attaquants.
Exactement.
En plus des joueurs de côté. Bon, après ce soir t'as Golovin, mais on est au mois d'août, hein, donc il lui reste à peu près encore il fait beau jusqu'à fin septembre, même mi-octobre. Bon, après il y aura la trêve, hein, elle est longue pour Golovin, elle dure 4 mois
et on le retrouvera en avril.
Ouais, voilà, mais s'il n'y a que Camara qui part, a priori ça devrait être fait, mais il sera remplacé dans la foulée. Zakaria sera là, l'équipe gardera de l'allure. Elle gardera de l'allure, cette équipe de Monaco, cette année, mine de rien.
Attention, je l'ai dit, moi, cette semaine, c'est une équipe qui est intrigante parce que il y a un coach qui a fait du très bon boulot à Flamengo, qui était un entraîneur qui avait quand même une cote. Et même s'il n'y a pas un effectif, c'est pas l'effectif le plus ronflant de Monaco sur les dernières années, mais il y a deux, trois joueurs qui ont roulé leur boss au Cercle Bruges, la Nazinho, le latéral, bien. La même chose devant avec Brunner, on en parlera après. Et puis derrière, si tu récupères un Cacré, le petit Lira là, du Mexique, à côté de Zakaria, un Golovin qui, même s'il est intermittent, peut dans ce type de match de Ligue 1 te faire des belles choses.
Minamino qui va revenir.
C'est une équipe qui, de toute façon, à chaque fois est dynamique et athlétique. Là, tu vois ce soir, même
le
en faisant.
Le problème, c'est qu'ils ont plein de joueurs qui font des 20% de saison. Mais tu fais des 20% ajoutés avec d'autres qui en font 20%, tu vas peut-être réussir à avoir un ensemble cohérent.
Oui, c'est possible. Et puis, c'est une équipe, je pense, qui va avoir un ADN avec son coach, qui va avoir une identité. Et il y a deux, trois joueurs qui ont la dalle, qui sont revanchards. Et ce soir, même sans avoir fait un énorme match, parce que je trouve qu'ils ont très, très bien géré temps fort, temps faible, tu sens que quand ils accélèrent en transition, ils ont des joueurs tellement athlétiques, avec un mélange de qualité technique, face à une équipe de Marseille.
Bon, après, c'était pas un gros match, hein, Olivier, on était sur un match moyen de Ligue 1. On n'est pas sur des équipes qui ne veulent pas jouer. On est face à des équipes, et notre Ligue 1, maintenant, elle est dans l'ensemble comme ça, avec des équipes qui veulent jouer, qui veulent être protagonistes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on est dans une Ligue 1 joueuse. Néanmoins, quand la qualité, elle baisse d'année en année parce que tu es obligé de vendre tous tes joueurs.
Tu vois, les 2-11, Monaco, Marseille, par rapport aux dernières années, c'est vrai qu'il y a des compos, t'as très peur quand même. Si tu rajoutes à ça.
Les bonnes intentions, tu les as.
Si tu rajoutes à ça le tifo horrible, là. Bon, nous, on avait la télé, vous étiez là-bas.
Parce qu'il y a les travaux.
Donc,
t'as la bâche avec les anciens joueurs dessus, là.
7000 supporters, Walid, c'était pas arrivé depuis 1987. C'est vrai que l'ambiance, elle était cataclysmique pour un Monaco-Marseille du dimanche soir.
Ça donnait une image pour rentrer dans le match. Heureusement que Paris Brunner nous a mis dedans, hein, parce que c'est vrai que c'était très très dur.
Tu as l'interdiction de déplacement des supporters de l'OM la fin août. Bon, évidemment, d'habitude, les Monaco-Marseille, c'est des gros matchs ici. Là, c'était une petite ambiance.
Maxime rajoute un truc, Daniel. Si tu n'avais pas commandé des billets au moins 3 fois sur le site de l'AS Monaco, tu ne pouvais pas acheter un billet. Donc, si tu es en vacances avec ton gamin dans la région, tu ne peux pas assister à ce match-là si tu n'as pas acheté 3 fois.
Franchement.
Je suis d'accord avec toi, Gilbert. Franchement.
Ça, c'est autre chose. C'est leur problème.
Ce qui est réussi, c'est les nouveaux fauteuils, mine de rien. Les nouveaux fauteuils sont là, les rouges et blancs. Franchement, c'est beau.
Il reste encore toute une tribune des fameux fauteuils jaunes.
Oui, c'est les fameux fauteuils jaunes, tu sais, qui existent encore. Ils sont historiques, les fauteuils jaunes, tu le sais.
Bien sûr. Tu sais où ils vont
finir, ces fauteuils jaunes.
Ah, tu t'en vas dans ton salon, en souvenir?
Ah, pas loin, puisqu'ils vont finir à San Remo, dans le stade.
Ah.
Le prince les a offerts à l'équipe de Christian Carambeau.
Parce qu'à San Remo, ils n'ont même pas de quoi se payer les sièges dans le stade.
Si Monaco les offre, pourquoi tu les prends pas? C'est un cadeau, c'est historique. Sont historiques, ces fauteuils jaunes.
Sur Monaco, les gars, du coup, est-ce que ça vous ouvre quand même une perspective pour la saison ou c'est trop tôt?
Non, on va patienter.
L'histoire, c'est pas les perspectives en fait. C'est que tu regardes. Moi, je reprends les mots de Walid. Walid, il dit avec ce coach, on a envie de voir. Je suis comme lui, j'ai envie de voir. Mais sauf que comme t'es obligé de relativiser, parce que tu te dis, bon, alors Marseille, la semaine dernière, 4-0. Bon, moi, je me suis pas du tout emballé, je crois que personne s'est emballé.
Non.
Mais si tu vois l'OM de ce soir, d'un coup, tu dis waouh, on réduit de 2 points les ambitions. Tu regardes les autres équipes. Tu dis,
Strasbourg cette semaine, par rapport à la semaine dernière.
Strasbourg qui fait un mauvais match et un gros match. Lens, on va dire qu'on va compter dessus. Rennes, aujourd'hui, pas terrible. Tu te dis que de toute façon, on le sait, la Ligue 1, elle est ouverte à tout le monde. Donc, une équipe cohérente qui va aligner une forme de régularité. N'oublions pas quand même l'année dernière, n'oublions jamais l'année dernière, les équipes du haut du classement qui ont connu des moments à 6, 7, voire 8 matchs sans victoire, qui ont enchaîné ensuite des périodes à 6, 7, 8 victoires. On a vu des choses complètement délirantes. Je parle même pas du parcours de l'OM qui est là le pavillon témoin du n'importe quoi de l'année dernière. Donc quand tu vois Monaco ce soir, Zakaria qui avec Camara qui sera remplacé par le petit mexicain ou Cacré, les joueurs qui sont devant et tout, évidemment tu peux compter sur Monaco. Il y a pas de raison de pas croire que Monaco peut faire podium. Mais tu vas pas croire que Lens va pas faire podium. T'es obligé de le croire.
De tous les ans de 3 à 7 t'as une course en fait. Donc
évidemment. Donc ça sert à rien d'essayer de faire des pronos
où il y a beaucoup de régularité. donc les mecs ils seront là. Maintenant, c'est vrai que ce soir, t'as des perspectives, t'as des découvertes sur des joueurs que tu ne connaissais pas. J'en ai parlé, mais Sané qu'on a connu un peu à Metz, solide, Nazinho bien, même le petit Koulibaly qui a été très bon l'année dernière, qui a été dans un rôle excentré. J'ai trouvé qu'il a mis beaucoup d'intensité. T'as un attaquant qui se révèle, qui envoie un gros message à la Ligue 1. Voilà, bon, c'est bien, c'est cool. C'est moi, je l'ai dit, entre les faux matchs de Conference League et même le match du Havre, parce que le Havre, ça va être une équipe très chiante cette année, la semaine dernière, j'ai vu des choses positives du côté de Monaco. Maintenant, ça reste à poursuivre et ça reste à confirmer. Gilbert, mais de toute façon, cette équipe-là,
oui, bah,
ce qui est intéressant, c'est qu'elle a l'intensité. Ça reste souvent quand même, quand ils font des gros matchs, une équipe moderne. Et ce soir, j'ai vu quand même une équipe moderne.
Après Camara, ça sera la différence quand même, parce que si tu remplaces Camara par un joueur qui fait pas le taf,
le match qu'il fait ce soir,
c'est pas
faire le taf, parce qu'au milieu tu peux avoir un mec qui fait le taf en termes de course, en termes de volume. Zakaria ce soir tout seul, il a mis les trois Marseillais dans sa poche. Mais à côté, Camara, il fait pas que le taf, c'est également un créatif.
C'est
un mec qui est assez technique, donc il va falloir cette pas assez même, c'est un mec technique tout simplement, j'enlève le assez au début. C'est ça qu'il faut, c'est cette touche là qu'il faudra. Et Cacré, sans lui faire offense, c'est en dessous.
Il a pas le même rythme que Camara.
Exactement.
Qui aujourd'hui,
exactement,
lui est un box to box avec le ballon.
Exactement.
Il est capable de donner.
Donc là,
de marquer.
Tu vas perdre. C'est sûr, tu perdras. De toute façon, si le mec va à Chelsea, c'est que
bah ça sera la différence entre 3 et 7 quoi.
Voilà. Après, tu peux limiter dans une ligue 1 moyenne, tu peux limiter avec un Cacré qui reste un bon joueur de football.
Oui, exactement. Oui. Mais tu vas perdre en qualité. Après, devant, je pense qu'ils avaient pas prévu que Brunner et Sneijder, parce que Brunner, il est au club. Brunner, je me suis renseigné deux minutes quand même, parce que quand je le vois jouer.
Club partenaire.
Mais à Monaco, Adi Hütter et Pocognoli n'aimaient pas ce joueur. Ils n'aimaient pas sa mentalité, ils n'aimaient pas son travail. C'est un mec qui a été mis tricard. Donc quand tu le vois ce soir faire ce qu'il fait, la confiance qu'il dégage, bon, j'imagine que tu t'es régalé de son deuxième but.
Oh là là.
Tu te dis tu regardes, tu dis bah attends, mais d'où il sort ce gars-là? Donc tu prends
après il a une grosse concurrence,
de Bruges, il est dans la galaxie.
Il y avait Linikina.
Au-delà de la concurrence, les entraîneurs ne l'aimaient pas.
Ouais.
Donc c'est la fameuse, tu sais, le fameux truc du contexte et du machin. Si là Felipe Luis l'a pris à la bonne et le gars il se met dans le bon chemin en termes de mentalité, c'est une recrue inattendue.
De toute façon, dans notre
après,
ligue,
il faut
dans
qu'il
notre
soit capable de faire ça toutes les semaines.
Dans notre ligue,
il a 20 ans.
C'est pour ça, c'est un mec qu'on connaît pas finalement.
Et surtout, il progresse de match en match. Au début, il rentre dans les matchs amicaux, il marque. Franchement, j'ai regardé. Alors, je sais pas si tout le monde s'amuse à regarder Monaco, Gornik Zabje. Il marque, mais il fait quand même des contrôles américains, frappe enroulée au deuxième poteau, troisième poteau. Et là, on a l'impression qu'il monte en puissance en plus match après match.
Et il gagne
en confiance. C'est vraiment pas mal. Ouais.
Et dans notre Ligue 1, de toute façon, cette année, vu la crise financière, il va avoir des enfants de la crise. Il va avoir des joueurs, des mecs
qui doivent profiter.
Et qui vont profiter de ce contexte-là, parce que les clubs ne peuvent plus mettre beaucoup d'argent pour se révéler. Et ce soir, Brunner fait partie de ces mecs-là.
On a Brian au 32-16 qui est supporter de l'ASM. Brian, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Walid, bonsoir Daniel.
Bon, ben voilà, t'as un nouveau coach, t'es leader, t'as quelques joueurs qui se révèlent, tout va bien ?
Ouais. Surtout défensivement, où je trouve que Monaco est très appliqué depuis le début de saison.
Tu veux réhabiliter d'ailleurs ?
Non, moi je vais attendre d'ailleurs.
D'ailleurs, ce soir, c'est le tour de contrôle. Il a sorti tous les ballons. Je sais pas combien de temps ça a duré. On sait très bien ses qualités, ses défauts. Si tu le plantes comme ça derrière et en face, t'as pas des attaquants qui vont plus vite, qui bougent plus vite. Si t'as un Guiri comme ce soir là, qui joue dans son salon là, d'ailleurs, il est tranquille. Hein.
Je vais attendre.
Non mais moi je te dis pas que je vais attendre. On sait comment il est.
Brian,
il faut le bouger beaucoup plus que ça, parce que là, il est à l'aise comme ça. Hein.
Mais là, ce soir, la défense a été tranquille. La compo et l'effectif marseillais, ils n'ont pas montré grand-chose sur ce match-là. Monaco n'a pas forcément été largement supérieur, mais était très appliqué, que ce soit du début à la fin, notamment après l'enchaînement de 4 matchs en 11 jours, puisque on a commencé par le premier match de barrage en Pologne, jeudi dernier. Donc physiquement on a bien tenu. J'avais un peu peur, notamment au milieu avec Camara, Zakaria, que l'enchaînement des 4 matchs en jour où ils ont joué tous les matchs et pratiquement toutes les minutes, ça allait être peut-être plus compliqué physiquement, et ça a été très bien. Et après, ouais,
pour moi, c'est les deux qui gagnent le match. Hein. Parce qu'en première mi-temps, quand l'OM, parce que l'OM démarre pas, démarre plutôt bien la rencontre, mais à chaque fois qu'il y avait des transitions monégasques, ce qui mettait comme intensité les deux, les conduites de balles qui perforaient deux joueurs, Højbjerg, Gomez, bon, Abdelli a été un peu moins mauvais, bon, j'ai pas compris ça.
On parlera de ton ami Abdelli, qui pour moi, c'est terrible.
Ah
moi, c'est terrible.
Je sais
pas ce que tu peux trouver à ce joueur.
On démarre l'OM après.
Mais en tout cas, les deux
C'est le trotteur de Vincennes.
On en parlera après.
Fin janvier, il peut faire le prix d'Amérique.
Ouais, on en parlera.
Brian, on va faire plus tard une évaluation, mais dis-nous un mot du coach là. Pour l'instant, il te plaît, Felipe Luis.
Moi, j'aime bien ce qu'il met en place. Je trouve que sur le banc, il amène quand même pas mal de sérénité. Quand il y a des coups de sifflet de l'arbitre, que ce soit pour Monaco ou contre, contrairement à Pocognoli, on l'entend pas crier. Il calme les joueurs, il amène ce que...
Ouais, c'est important ça, t'as raison de le souligner.
Qu'il avait besoin. Et là où je trouve qu'il y a un changement par rapport à Pocognoli et par rapport à Uther, c'est qu'on a un jeu qui est beaucoup moins axial. On joue vraiment beaucoup plus sur les ailes, il y a beaucoup plus de centres, que ce soit Vanderson, que ce soit Nazinho, que ce soit Edombo sur l'aile droite, sur l'aile gauche, Koulibaly qui joue un peu par défaut sur l'aile droite, mais qui se bat comme un chien, et puis après bien aidé aussi par Brunner qui même si va falloir qu'il apprenne à jouer peut-être un peu plus en équipe, parce que c'est peut-être son point faible, je dirais, à l'heure actuelle, mais c'est un véritable poison pour les défenses. Il est toujours à réception des centres. Premier poteau, deuxième poteau.
Ce qu'il a fait à Sidjira, il est à Kondogbia tout le match. Là,
ouais, on va en reparler tout à l'heure.
Il les a promenés.
C'était déjà pareil. Un match de préparation, quand il rentrait, c'était exactement ça. Contre le club polonais, j'ai perdu le nom, ben, c'était exactement Zabré. Pareil. C'est vraiment pressing de tout instant. Il va de partout. Il a une bonne pointe de vitesse malgré tout, et puis il est dur sur les appuis. On le bouge quand même très difficilement.
Et t'as raison sur Idumbo, l'année dernière, il était catastrophique pour l'instant. Les deux premiers matchs que j'ai vus de lui sur le début de saison, c'est quand même bien mieux. Bon, il pouvait pas faire pire, mais je le trouve plus positif pour son équipe. Et là où je trouve que Felipe Luis, c'est quand même fort, c'est qu'il aurait pu mettre le petit de Tourbet qui a été très bon l'année dernière avec Troyes, mais qui est encore très frêle, je pense, et qui va devoir prendre conscience de ce qu'est la Ligue 1. Mais de mettre des profils comme Idombo et Koulibaly dans ce type de match, c'est aussi faire confiance à l'intensité, et je pense qu'il est récompensé sur le match avec ces profils-là.
Bon, il y a PSG Monaco qui arrive, hein. Ça vous a
fait chier. En fait, on a
des gros matchs. On a des gros matchs en début de saison, là. Ouais, des gros matchs en début de saison. On va se faire chier dans deux mois.
Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tout a été concentré là dans les deux premiers mois? Bah, campagne marketing de Ligue 1 Plus, je trouve que c'est assez malin.
Okay.
L'année où ils récupèrent tous les matchs, ils ont besoin de séduire très très vite et d'envoyer du lourd.
Okay.
Et c'est pour ça que jusqu'à la trêve, et d'ailleurs le dernier match avant la trêve internationale, ce sera au MPG,
qui viendra
clôturer ce moment de début de saison où tu auras effectivement eu pas mal de belles affiches pour séduire les nouveaux abonnés. Moi, je trouve que c'est malin, c'est une bonne idée d'avoir fait ça.
Je remercie Brian au 32-16 dans un instant. L'OM au programme. Beaucoup de choses
Brian
à dire
qui
n'est
pas
soir.
Toujours in the kitchen, quoi, du coup.
Non, il peut être à Louis II. Enfin, là, il n'était pas, je crois. 23h01, on est de retour tout de suite dans l'after. On se retrouve donc pour parler de l'OM 32-16, supporters marseillais. On vous attend.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, Walid Acherchour est là, Daniel Riello au stade, à Monaco, Aurélien Tirsin également. Et on ouvre la page marseillaise. Je rappelle le contexte global pour ceux à qui ça a échappé. Le mercato se termine mardi à 20h. Balerdi n'est plus là, prêté à Rome, on y reviendra tout à l'heure. Pachao n'a pas joué ce soir, blessé, mais sans doute peut-être aussi sur le départ. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Et pour l'instant, on ne voit rien venir, puisque vous avez entendu le directeur sportif Lorenzi ce week-end bien expliquer. Ce que Fabrice Hawkins nous disait d'ailleurs déjà dans l'after la semaine dernière, c'est qu'il faut qu'il y ait 4 joueurs qui partent pour qu'il y en ait un qui arrive. Et donc là ce soir, tu as un OM qui est un naufragé avec des jeunes, avec des blessés, avec des départs. Bref, Walid, c'est la soirée pourrie complète pour l'OM.
Ouais, moi je suis effrayé par la situation de l'Olympique de Marseille. On était au Vélodrome la semaine dernière avec Daniel. On temporisait quand même malgré la défaite parce qu'on savait ce qui allait se passer dans les derniers jours du mercato. Et on est le 30 août et le pire reste à venir pour l'Olympique de Marseille parce que ce qu'on a vu ce soir sur le terrain et en dehors, parce que les visages de Genesio et son staff à chaque blessure, au vu de la prestation affligeante de la part de l'Olympique de Marseille, il y a de quoi avoir très 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 peur. Et moi je l'ai dit dans mes trois points, mais moi je n'écarte pas si bien évidemment Pachao et Timber sortent ou Emerson, hein, parce qu'il y a aussi Emerson qui est sollicité latéral gauche, de voir une saison à la niçoise l'an dernier avec l'Europa League, hein. C'est-à-dire que l'Europa League plus la Ligue 1, d'avoir une saison flippante de l'Olympique de Marseille. Et moi à la place de Genesio, sincèrement ce soir, s'il a pas été prévenu comme il l'a expliqué, s'il imaginait pas une situation aussi grotesque sur le mercato, moi je pense à me barrer, hein. À moi sincèrement, parce que là en fait Genesio il a quand même fait 2-3 choses dans le football français, il mérite un semblant d'équipe, parce que là sur cette année là ce qui va se passer entre les jeunes joueurs, les blessés, les joueurs qui sont pas prêts à l'emploi, les joueurs surcotés, ça peut être dramatique pour Bruno Genesio. Vraiment moi j'ai très très peur de ce qui peut se passer. Et à sa place, moi je pense que n'importe quel gros coach pourrait se barrer ce soir, hein, au vu de la situation et ce qu'on envoie comme signal. Moi sincèrement ce soir je suis effrayé.
Daniel, t'es d'accord avec Walid ?
Voilà, le match de ce soir, ok, on est tous d'accord, c'est une très mauvaise prestation. Je pense que le climat de la semaine, et jusqu'à mardi, le climat est tellement pesant que ça peut également expliquer la façon dont l'équipe est mentalement en ce moment, et même le coach qui se pose beaucoup de questions. Donc pour ce que cette équipe sera capable de faire, on attendra quand même un petit peu. Il n'y a pas que des bras cassés dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs avec point d'interrogation parce que toute leur carrière a été un point d'interrogation, ça d'accord. La situation, il y a eu toute la semaine en fait une espèce de lutte entre je sais pas comment on pourrait dire ça, je sais pas, le sportif et l'administratif, Boston Marseille,
le sportif et l'économique,
exactement, ceux qui disent qu'il faut vendre. En gros, vendredi Pachao c'est 100%, il s'en va, ne posez même pas la question. Ce soir on est plus sur une tendance, il bougera pas parce que le côté sportif a convaincu, s'est battu.
Tout ça validé par, oui, Boston, donc par McCourt.
En fait, jusqu'à mardi, je pense que ça va, je ne sais pas comment dire ça, se battre, discuter, pour montrer, envoyer le message qu'il faut absolument qu'il y ait une équipe, sinon ça peut être la saison que vient de décrire Walid. Visiblement, on a compris le message à Boston. Et pas qu'à Boston, Sherazade, elle ne vit pas à Boston. Genesio a pesé de tout son poids dans les discussions. Il l'a d'ailleurs pas caché. On l'a vu, hein, dans toute sa communication. Il n'a pas hésité à parler, à laisser planer une espèce de doute. Enfin bon, et je pense que ça s'est ressenti dans le club et dans la presta de ce soir. Moi, je l'ai vu, Bruno Genesio, avant le coup d'envoi. Il était plutôt désormais très confiant sur le fait que Pachao reste. Si jamais cette confiance-là se transforme en réel politique, non, finalement, malgré ce qu'on a, il va partir. Ouais, ça pourrait casser quelque chose. Mais là, visiblement, la grosse saignée, j'ai l'impression qu'on est en train de se calmer.
Donc demain, il y a 40 bâtons sur Pachao en Arabie Saoudite, il reste.
Pour l'instant, l'offre, elle n'est pas sur le bureau.
Oui, mais s'il y a offre.
Donc il faut qu'elle arrive. Ils sont en train, je ne sais pas comment te le dire autrement, je ne sais pas ce que tu ferais à leur place. Aujourd'hui, le sportif, donc Greg Lorenzi, Stéphane Richard, Bruno Genesio, disent à ceux qui font les comptes, ne touchez pas cet effectif, sinon ça va être très dur.
Moi, je pense que c'est, en tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est que au vu du match de ce soir, encore plus avec la blessure de Kondogbia et le match de Kondogbia, où on sait très très bien que Kondogbia est trop fragile pour le très très haut niveau, partir avec une défense Kondogbia à Gerd, aujourd'hui, voir Emerson partir à la Fiorentina ou au Brésil, voir Pachao partir et terminer avec des jeunes ou des joueurs, encore une fois, je répète, qui vont être dans un contexte
Tu peux pas jouer avec Gouiri et Mbagna.
Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que même si le petit Abdallah fait une belle entrée.
C'était le meilleur. C'est le meilleur, en fait, sur le terrain.
Et au passage, Abdallah, on parlera de ça dans les évaluations. Mais quand je vois des trentenaires prendre 400, 500 000 euros par mois et le petit qui rentre là à Louis II à 10 ou 15 000 bruts, être le meilleur Marseillais, mais il y a deux, trois mecs qui doivent se regarder dans une glace.
C'est pas normal.
Dans cette équipe. Parce que c'est pas normal de pas être prêt à l'emploi. Mais pour passer à la situation économique et à la situation sportive, sincèrement, Daniel, je sais pas si tu te rends compte, mais de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines chez les supporters marseillais. Parce que là, si tu vends les trois mecs qu'on vient de citer, si Genesio part ou il ne reste, mais que les résultats un peu comme Nice.
Là, tu tournes un scénar catastrophe qui n'existe pas encore.
Mais oui, mais donc, ce soir, j'ai vu des têtes.
Je suis d'accord.
Mais franchement, c'est.
Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut attendre mardi et que tant que les discussions existent et que les discussions sont plutôt en train de tourner en faveur du sportif, je pense qu'il faut garder un espoir que la situation se redresse.
J'espère.
En tout cas, qu'il n'y ait pas la saignée annoncée. Et après, on verra ce que pourra faire l'OM. Parce que saigner ou pas saigner, ce soir, admettons que tu aies l'équipe qui est là ce soir. Alors, je veux bien qu'elle soit atteinte mentalement, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, là, tout le monde est dans l'indécision, c'est un peu la panique à bord. Mais de toute façon, il va quand même falloir redresser les mecs qui sont là. Si Pachao reste, c'est très bien. Mais côté de ça, il va falloir faire quelque chose avec Harit. Harit n'a jamais été un joueur d'une saison.
Je vous coupe, les gars, parce que Bruno Genesio vient s'asseoir à la conférence de presse. Daniel, on va écouter ses premières réponses.
Après une défaite. Mais je pense qu'il faut aussi savoir prendre un peu de hauteur et regarder aussi ce qui s'est passé dans le match. Ça a été un match plutôt équilibré. Quand on regarde bien, même au niveau statistique, la différence, je pense, c'est que Monaco a concrétisé ses temps forts, ce que nous n'avons pas réussi à faire, que ce soit à 1-0, où on a eu deux ou trois situations pour égaliser, ou même à 0-2, où on avait la possibilité encore de se relancer. Malheureusement, on n'a pas su le faire, et c'est ce qui nous coûte, je pense, très cher ce soir. Et je pense aussi qu'on a souffert athlétiquement et physiquement.
Bruno, est-ce que l'OM n'est pas assez armé offensivement, à tel point que vous êtes obligé de faire jouer Timber un petit peu milieu offensif gauche? Et est-ce que vous regrettez de l'avoir titularisé, vu qu'on n'a pas semblé, on n'a pas senti qu'il était très motivé?
Ouais, j'avais plusieurs choix possibles pour remplacer Igor. J'ai fait ce choix. Peut-être que j'ai pas mis Quinten dans les meilleures dispositions aussi. Voilà, à la mi-temps, on a choisi de changer pour amener un peu plus de vitesse et de percussion, ce qui a très bien fait Kylian Abdallah. Donc voilà, il faut assumer ses choix quand ils sont bons et quand ils sont moins bons. Et je pense que c'était peut-être pas la meilleure façon de positionner Quinten ce soir.
Je critique pas votre choix.
Non, je l'ai pas pris du tout comme ça.
Mais malgré tout, est-ce que l'OM manque quand même d'atouts offensifs en l'absence évidemment d'Igor?
Bah, on a malgré tout eu quand même plusieurs occasions de marquer. Je pense qu'on a surtout manqué d'efficacité, parce qu'il y a plusieurs situations où on peut marquer. Voilà, donc on va travailler encore et encore. Mais c'est sûr que lorsqu'on a un joueur absent, on est fortement diminué. Maintenant, il y a des jeunes joueurs notamment Kylian qui est rentré, qui a montré des qualités. Donc c'est un point positif aussi. Et de toute façon, je l'ai déjà dit, on fera à partir de mardi le point sur notre effectif, sur les possibilités qu'on a. Et puis ce sera à nous, le staff, et à moi en particulier, de m'adapter et de faire les meilleurs choix possibles pour l'équipe.
Voilà, alors on continue d'écouter en coulisses Bruno Genesio si jamais il dit des trucs importants. Restons un peu sur le match là, parce que donc il fait son mea culpa sur Timber, il dit en gros bah, c'est ma faute, j'aurais pas dû le mettre là où je l'ai mis, on va y revenir. Mais sur les stats, parce que du coup je suis en train de regarder là, bah, il a pas tort, hein. Il a pas tort sur les stats.
Je sais pas ce que veulent dire les stats là-dessus. Moi, on est quand même devant le match. Moi,
la
j'ai
possession
pas
est marseillaise, 75%. Il y a plus de passes, il y a plus d'occasions.
Que la possession se termine.
Plus de tirs marseillais.
Non, mais que la possession se termine à leur avantage à partir du moment où ils sont menés 1-0, puis 2-0, et que Monaco laisse le jeu, je veux bien, mais en termes d'occasion nette, qu'est-ce que Marseille a fait? Est-ce que Monaco a eu chaud derrière? Est-ce que Radetzky a fait des arrêts?
Jamais.
Non, il n'y a pas d'occasion nette. J'ai pas vu de jeu réellement se développer. Maintenant, parlons des joueurs sur le terrain. Moi, il y a un gars qui que les circonstances semblent devoir transformer en patron de l'attaque, Amin Gouiri. Mais moi, j'y arrive pas avec ce joueur. Je suis désolé, j'y arrive pas. Il faut qu'il joue 9, il faut qu'il joue 10, il redescend pour demander les ballons. Mais après, à qui il donne? Quelles sont les solutions autour de lui? De quelle façon ça bouge? Évidemment, je vois bien que c'est un joueur assez technique et tout. Mais bon, si c'était un patron, si c'était
c'est
un crack,
sympa,
on le saurait depuis
sympa.
Des arrêts.
Ce
serait, on le saurait, on saurait depuis des années ce que vaut ce joueur. Mais le problème, c'est que ce raisonnement-là, il va tenir encore plus pour Harit. Il va tenir encore plus pour des mecs comme Abdelli qui sont très bons quand ils jouent à Angers. Mais quand il arrive là, au trop, ça va pas coller.
Après,
le
sur la
trop.
Première mi-temps,
je vois bien qu'il, mais je vois bien qu'il a du ballon, mais il rentre, mais il se fait déglinguer.
Sur la première mi-temps, Harit et Abdelli, pour moi, avec le ballon, sont les meilleurs, sont les moins mauvais.
Mais non,
mais si,
mais ça tricote, mais, ça,
oui,
mais tricote,
ça tricote. Mais heureusement qu'il tricote, tu vois.
Mais Amin Gouiri, c'est surtout pas un avant-centre. Il est au troisième poteau tout le temps. En fait, limite, c'est mieux quand il y a Moumbagna à la fin avec lui. Parce que c'est pas un avant-centre. Non, mais limite, parce qu'Amin Gouiri, c'est pas un avant-centre. Tu comprends ce que je veux dire? Il lui faut quelqu'un à côté pour exister.
Moumbagna, même à son remous, je le prends pas. Même,
mais tu comprends ce que je veux dire? Amin Gouiri, il est jamais dans l'axe. C'est pas un avant-centre.
Mais les gars, excuse-moi, Daniel. Sur l'échelle de responsabilité.
Sur la première mi-temps. Dans une association.
Daniel, sur la première mi-temps, parce que tout à l'heure, tu voulais parler d'Abdelli. Moi, encore une fois, je pense que ça va trop vite pour lui, le très haut niveau. On est d'accord là-dessus?
Petit. Eh ben alors, non, mais
sur la mi-temps, sur la première mi-temps, je suis beaucoup plus effaré par le niveau sans le ballon d'un Højbjerg qui, à chaque fois que Zakaria fait une prise de balle, il est à 5 mètres.
On va faire la politique du pire.
Mais voilà.
On va pas faire la politique
moi,
du pire.
Moi, sincèrement, sur la première mi-temps, mais sur la première mi-temps, je le sens pas, Abdelli, moi, par rapport aux trois autres.
Walid.
Harit, la même chose.
Il y a une chose, c'est, moi je te dis pas qu'ils ne savent pas jouer au ballon, c'est des joueurs de ballon, on le voit bien, mais Harit, Abdelli, les joueurs, quand je les vois là, pour moi c'est du square,
oui.
C'est du football de square. Ça va à deux à l'heure,
et les autres,
ça tripote un
et
peu. Harit, à peine tu lui rentres dedans, il se casse en deux, il tombe par terre. Abdelli, il a fait une accélération. Je l'ai vu accélérer une fois. Le reste du temps, soit il donne pas dans le bon tempo. Je lui ai vu donner un ballon en première intention, un peu propre. Ça va pas assez vite. C'est pas des joueurs pour l'OM, ça.
Oui, d'accord.
Mais dans un OM très faible.
Non, mais je vais pas fixer ce soir.
Højbjerg, c'est un bon match à l'Agnac, et puis voilà, c'est le trentenaire. De temps en temps, il te fait un bon match au Vélodrome. Le reste du temps, c'est moyen, mais là on est dans un
match complètement. En fait, ce que je veux te dire, Daniel, c'est que ce soir, Abdelli qui prend 100 bâtons par mois par rapport à Højbjerg, par rapport à Timber,
oui,
international hollandais.
Tu vas pas faire la grille salariale, pour expliquer les performances.
Mais non, je te dis que sur la première mi-temps, moi je te dis que c'est le moins mauvais. Maintenant, et j'ai pas compris pourquoi Genesio le sort. Et surtout, en plus, il le dit en conférence de presse.
Moi, ça m'a pas étonné qu'il le sort.
L'utilisation de Timber est problématique. Elle est problématique déjà pour moi de la part de Genesio. Derrière, moi j'ai pas compris son changement, toi tu le comprends, c'est pas très grave, on avance, mais la réalité c'est que c'est surtout la charnière centrale, c'est Djiraillet et Kondogbia qui se sont fait balader par Brunner pendant toute la rencontre. Ça, pour moi, ça me pose beaucoup plus de problèmes.
Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Vendredi, on a vu le Vélodrome tous les deux. C'est la même charnière, on est d'accord?
Oui, j'ai pas vu.
Non, c'est bon, ok, voilà. Donc ils ont pas été inquiétés parce que Strasbourg était quasiment inoffensif et tout, donc ça faisait un peu taille patron. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Ah, est-ce que Riley va être l'anglais qui avait gagné avec les U20, machin? Et Kondogbia, est-ce qu'il va être capable de faire 3-4? À chaque fois qu'on voit Kondogbia pas mis en danger ou faire un bon match, on dit ça. Dès le deuxième match, Kondogbia, il se fait déglinguer, retourner par Brunner, il y a deux semaines, personne ne le connaissait. Et en plus, il trouve le moyen de sortir parce qu'il est blessé.
Et il doit prendre rouge en première période.
Daniel, le problème, avant de parler d'Abdelli et d'Harit, je te dis que un Højbjerg qui, encore une fois,
si t'as envie de dire que ces mecs-là ont des salaires monstrueux, qui sont pas ok, on est d'accord.
Mais faut le dire, ça, parce que ce soir, à un moment donné, le football.
On l'a dit, tu le dis depuis une demi-heure.
Non, mais le football, c'est de l'argent, Daniel. C'est de l'argent. Tu mets des investissements sur des joueurs. Quand Camara et Zakaria, ils te roulent dessus, c'est parce qu'ils ont des gros statuts, ils ont des gros salaires. À l'Olympique de Marseille, t'as donné des sous à des mecs, ils te crèvent à tous les matchs. Quand tu vois la charnière centrale, quand tu vois Højbjerg, quand tu vois même Timothy Weah, le match qu'il fait ce soir,
Alors Timothée Weah, je ne lui tomberai pas dessus. Dans une défense à 4 arrière droit, pour moi c'est pas bon.
Bah d'accord, mais c'est pas bon. Mais là il joue, il a pris la semaine dernière,
j'y crois pas.
Il a pris
Weah,
tout le match.
Je le mets à un autre endroit. Oui, mais Weah, je veux pas lui tomber dessus ce soir parce que Weah l'année dernière, il fait une belle saison.
Oui.
OK, ouais, il fait une belle saison, j'ai même été étonné.
Les deux que tu montes du doigt, c'est Kondogbia et Hochberg en premier, en fait.
Mais ils prennent un million par mois à Marseille. Il faut déchirer le contrat, Kondogbia. On est super gentils et nous, on est dans l'honnêteté intellectuelle.
Mais Kondogbia, ça fait 10 ans, mais à chaque fois que je te le dis, tu me ressors ces 3 matchs avec l'Atlético.
Mais oui, mais je me mets dedans.
La semaine dernière, tu étais en train de me dire qu'il a fait 3 bons matchs avec l'Atlético.
Mais moi, je suis là, je suis gentil.
Je te dis, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est le pompe à vélo. Ça fait 10 ans que c'est le pompe à vélo. Ça fait 10 ans que c'est 3 matchs par année.
Parce que je suis dans l'honnêteté intellectuelle, quoi, oui. Contrairement à toi, Daniel, oui. Où je me dis bon.
Pourquoi tu me dis ça à moi?
Mais la semaine dernière, j'ai dit il fait un bon match, Kondogbia. On verra, Kondogbia. On va lui laisser le bénéfice du doute. Une semaine après,
c'est le bénéfice du doute. Ça fait 10 ans qu'il l'a. Mais ça fait 10 ans qu'il a le bénéfice du doute. Parce qu'il a fait le match contre Arsenal ici avec Monaco. Et tu m'as ajouté quand j'ai dit ça. Oh, t'oublies les 3 matchs avec l'Atlético. Hein.
Oui, bah oui, non, mais enfin, d'accord.
Ok, bah très bien. Donc il a fait 10 matchs en 10 ans. Bah super. Super. Allez. Et il a 400 000 ou je sais pas combien, puisque t'as l'air de connaître la politique, la grille salariale de l'OM, là, visiblement.
Le seul avantage, c'est que son contrat s'arrête en 2027.
T'es copain avec Micheline de la compta de l'OM, bah, va refaire les salaires.
On le reverra pas tout de suite, apparemment, il s'est blessé. Donc,
il se blesse sur une
passe.
Il se blesse sur une passe.
Qu'il soit blessé ou qu'il soit pas blessé, tu le revois jamais, de toute façon.
Et il doit prendre un rouge en première période, Gilbert, parce que même avec Kevin pendant le match, le dégagement d'Eric Dyer, oui. Paris Brunner le défonce. On pensait que c'était carrément le replay de la première période, mais en fait, l'arbitre, miraculeusement, dit que le 6 mètres était en train de rouler, donc il a sifflé un 6 mètres à rejouer, alors que Kondogbia, il s'est fait manger de la même manière. De toute façon, à l'OM ce soir, il n'y avait pas un des 4 joueurs de la ligne défensive qui est un vrai défenseur.
Kondogbia, il a validé son salaire le match à Madrid l'année dernière.
Oui, non, mais t'as raison là-dessus.
C'était le match. Alors, c'est quoi le meilleur positionnement pour Kondogbia? Est-ce que c'est devant la défense ou est-ce que, comme il a vieilli, on pourrait pas le faire reculer en charnière?
Moi, je me souviens de Mehdi Benatia qui était ici dans le studio de l'After et qui, à l'époque, Kondogbia était blessé et qui nous a dit vous allez voir quand Kondo va revenir, c'est un joueur
ça
énorme.
Ça fait 10 ans qu'on nous dit vous allez voir. Ça fait 10 ans qu'on doit voir. Ça fait 10 ans qu'on doit voir.
Il a fait des bouts de match.
Il fait un match sur 5, un match sur 6 quand il est disponible. À Madrid, tu l'as dit l'année dernière, il est capable de faire des choses, mais le problème c'est que c'est pas fiable. On parle trop, globalement, au-delà de Kondogbia,
de joueurs. Honnêtement, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est faire une bonne saison. Je me souviens qu'un soir, on en avait parlé avec Kevin de ce truc-là. Il faudrait calculer. Il y a 1000 stats, mais il n'y a pas la stat de combien de matchs. C'est quoi? Tu dois faire 70% de bons matchs, 80% de bons matchs. On va dire que tu ne peux pas faire 100% de bons matchs dans une saison. Mais en Ligue 1, on est plus à des joueurs qui en font 20-30% et qui ont des gros salaires. Là-dessus, je te suis 100%, Walid. Je suis avec toi sur cette histoire-là. On a donné des gros salaires à des pompes à vélo. Kondogbia, c'en est un. Évidemment, son salaire, c'est usurpé. Il n'y a pas de problème. Mais trop de fois, on a parlé, comme l'année dernière après le match à Madrid, comme Mehdi Benatia était venu nous le dire, oui, ces mecs-là, ils vont être bons, c'est des promesses. Les mecs, ils prennent leur gros salaire et ils te font, mais alors pour Kondogbia, c'est même pas 20, c'est 10%.
Non, mais il y a un moment, nous, si on est payé ici et qu'on vient pas aux émissions et qu'on fait une émission sur 8, il y a un moment, contrat, c'est terminé, quoi. Il y a un moment, faut arrêter, quoi.
Gilbert, il va te le dire.
Kondogbia, dans la saison, il te fait 4 matchs. Et à chaque fois qu'il y a un gros. En Ligue 1, il se fait tourner.
Alors, juste une petite info, j'ai les yeux là, parce qu'en même temps, on écoute Najib, notre producteur du soir, écoute ce qu'il dit. Donc là, Bruno Genesio, en conférence de presse, il est en train de sous-entendre qu'en gros, on est parti pour qu'il y ait zéro arrivée. Voilà.
Peut-être pas de départ.
Le problème, c'est qu'il a redit ce qu'a dit Lorenzi, c'est-à-dire qu'il faut 3-4 départs pour enregistrer les arrivées. Et il dit,
les 3-4 départs, il n'y aura pas d'arrivée.
Et la tendance,
je ne sais pas si on va lui poser la question, mais ce soir, la tendance, alors après, comme ça a changé tout le week-end, mais la grosse tendance, c'est que Pacheco ne parte pas finalement.
De toute façon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, McCourt, même avec la DNCG, même avec l'histoire de l'UEFA, il y a un moment, il faut penser au club. Il a mis énormément d'argent au club. Mais là, ce qui peut se passer, sincèrement, si Emerson. Ah,
après, c'est son oseille. Moi, je n'irai pas mettre le nez dans l'oseille des gens.
Mais non, je ne vais pas mettre dans l'oseille des gens. Il y a un actif. S'ils vont en Ligue 2 l'an prochain et qu'il y a le feu au Vélodrome, Daniel.
En Ligue 2, mais t'exagères.
Donc, à l'Olympique de Marseille, avec un contexte aussi sulfureux.
T'abuses.
Mais tu penses que demain, tu sors Emerson, tu ne le remplaces pas. Tu ne sors pas Tchao, tu ne le remplaces pas. Et tu sors Timber, tu ne le remplaces pas.
On vient de te dire qu'ils ne vont pas sortir. Peut-être Timber, oui, mais pas les autres.
Je te dis que McCourt, courte, il doit à un moment donné, parce que toi tu dis que
oui, oui, mais c'est ce qu'il est en train de se dire.
Je suis en train de te dire que McCourt, il y a un moment, il faut qu'il se réveille sur ces dossiers-là.
C'est ce qu'il est visiblement en train de faire.
J'espère.
Allez, stop, pub. Et ensuite, on continue le débat. On aura Baptiste au 32-16, supporter marseillais. On fera ensuite l'évaluation. Et puis, d'ici minuit, évidemment, on parle de Rennes qui a battu Le Mans 3-0, 3-2. On parle du Paris FC qui a battu Nice 3-0. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h24, Walid Acharchour est là, Daniel Riolo au stade à Monaco après la défaite de l'OM face à la SM 2-0. Aurélien Tirsain est également au stade. Et évidemment, alors il y a des infos qui viennent du Brésil, Walid, faisant état de départ de Pacho.
Oui, ça parle d'offres, en tout cas de Sunderland qui arriverait dans les prochaines heures, mais des médias sérieux au Brésil. Mais on va voir, de toute façon, ça va être une bataille, comme l'a dit Daniel.
Ça tombera pas mardi, hein, ouais. ça, si ça doit se faire maintenant que le match est passé. C'est là, mais je dis que jusqu'au bout, ça va être une discussion serrée. Pour l'instant, le sportif semble l'emporter, mais...
Et moi, je pense, on aura le temps d'en parler demain, plus longuement, mais je pense que si Genesio et Lorenzi perdent la bataille face à Sherazade et McCourt, je pense que cet été aura été très très mal géré de la part de Lorenzi, parce que s'ils perdent cette bataille-là, il aurait fallu sortir les joueurs bien bien avant pour essayer de se refaire un effectif.
Pour se retourner.
Parce que là, t'as tout perdu. Si vraiment les mecs sortent, t'as tout perdu, il y aura eu une gestion qu'il faudra analyser, et McCourt, pour moi, devra s'expliquer si ça se passe comme ça, enfin si tous les mecs sortent, si tous les mecs qui doivent sortir sortent.
Parce que Peschao, si tu l'as pas ce soir, tu vois bien qu'à la fin tu finis avec Mopé, Mumbanya, il y a rien. Harit, 150 matchs avec l'OM, probablement 8 buts, 8 passes D, à Schalke 04, il avait fait pareil. C'est pas un joueur des 30 derniers mètres, il te fera pas de différence, même si l'état d'esprit, Daniel, t'étais au stade aussi. Il revient, il récupère des ballons, mais à l'OM, il a rien à faire là. En tout cas, pour jouer titulaire, Guiri, on en a parlé, il est pas là. Et puis Kylian Abdallah, il a 18 ans, il peut pas faire grand chose. Si t'enlèves Peschao, là, pour le coup, avec Walid, je serais peut-être un peu plus mesuré que lui. Descendre en Ligue 2, je sais pas. Non, mais il y a vraiment rien.
Tu peux avoir une saison très
lutter,
compliquée.
Lutter, en tout cas.
Les gars, ouais. Mais s'il y a personne au VEL, si ça envoie les banderoles de chèvres et tout, etc., tous les week-ends, tout ce qui peut se passer. Eh. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est Marseille.
On sait très bien, mais tu peux également avoir, un peuple marseillais qui, dans la difficulté, se retrouve avec un Genesio qui est assez fédérateur. Je l'ai vu ce soir, il n'y avait pas beaucoup de supporters de Marseille. Il y en avait quand même dans tout un virage. Qui était venu qui l'acclamait. J'ai même rigolé avec lui. Je lui dis, bah, dis donc, tu vois, pour un Lyonnais, tout le monde t'adore à Marseille. C'est quelqu'un qui est plutôt apprécié parce qu'il est franc, parce qu'il dit les choses comme il les sent et il dit la vérité. Il ment pas. Moi, il m'a dit, on va tout faire pour le garder et on fera tout pour. Et si je perds cette bataille, ben, je la perdrai. Je n'ai pas l'impression qu'il ait sous-entendu qu'il partirait si jamais. Il se battra. Il peut y avoir une espèce d'union sacrée.
Ah, bravo à lui.
Maintenant, la qualité, effectivement, elle est pas vraiment là à Marseille. Ce que tu peux faire dans un club où il y a moins de pression populaire, resserrer les rangs, sortir une saison correcte malgré tout. À Marseille, je sais pas.
Marseille, c'est pas Lyon. C'est pas comme l'an dernier.
C'est pas Lyon. Je suis d'accord avec toi.
Allez, Baptiste est là.
Il y avait quand même des vrais joueurs l'année dernière.
Baptiste au 32-16, supporter marseillais. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, est-ce que tu es d'accord avec le constat que tu entends dans l'after depuis tout à l'heure là?
Oh bah oui, carrément, de toute façon, un effectif qui est extrêmement moyen. On a une addition de vieux joueurs, de joueurs fragiles, de petites promesses. On va dire qu'Abdallah, c'est le meilleur joueur, mais ça reste une promesse. On ne sait pas si c'est un crack, il est très jeune, mais bon, si c'est un crack, on le saura, je pense, quand même. En tout cas, en attendant, peut-être qu'il faudrait lancer un peu plus sérieusement dans une solution. De toute façon, on n'a pas vraiment délié à droite, en tout cas. Et puis ensuite, l'image autour d'Alouette qui a vraiment sali encore plus le bilan d'aujourd'hui, c'est que Todibo va à Lens et ça montre vraiment on le savait qu'il ne pourrait pas venir sans départ, mais de toute façon, je trouve que le fait qu'il aille à Lens en plus, ça rajoute une couche vraiment sur ce dossier et notre été.
En même temps, entre jouer la Ligue des Champions et pas la jouer dans un club où on envoie une image de stabilité,
on peut pas lui reprocher
ça. C'est très dur pour l'OM d'encaisser une nouvelle pareille. Oui,
c'est ce que nous expliquait Fabrice Hawkins jeudi dernier. Il nous disait, il y a plein de joueurs qui veulent venir à Marseille, mais plus les heures passent et plus ils viendront pas.
En ce moment, c'est pas attractif.
Et puis, il faut voir les accords. Il faut voir la santé des joueurs. avec qui l'Olympique de Marseille a un accord. Hein. Par exemple, il y a un ancien milieu de terrain qu'aime beaucoup Genesio, qui était à Nice l'an dernier, qui a un accord avec l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est pas du premier chapeau physiquement et athlétiquement, quoi. C'est-à-dire que les mecs qui vont venir, c'est des mecs qu'il va falloir retaper. Hein.
Tu nous parles de qui là?
Un joueur qui était à Lyon avec Genesio, qui était à Nice l'année dernière. Un ancien international
si tu
français.
Dis non, c'est plus facile. Hein.
Ndombélé.
On va pas jouer devinette.
Ah, Tanguy Ndombélé.
Oh mon Dieu.
Ah ouais, non là.
Ah,
ils ont des accords avec ce type de joueurs.
Là, ça va faire trop de paris en fait, parce que là déjà on a beaucoup des paris.
Attention,
des
aujourd'hui le 30 août,
si t'en achètes un.
Aujourd'hui le 30 août, si tu les joueurs où tu fais pas de paris, il y en a plus. Hein.
Ah oui, non mais là c'est pas.
Ouais, mieux vaut donner une chance à Nadi qui est sur 20 minutes à montrer une petite chose.
Là c'est beaucoup là.
Baptiste, tu t'attends une saison ventre mou du coup?
Ventre mou, je sais pas. Enfin, à un moment donné, il faut quand même se comparer. Oui, c'est sûr que si on se compare à Monaco, etc., on n'a pas le niveau. Mais on va quand même en plus comparer, je sais pas moi, à Lorient, etc. Faut oser. Maintenant, c'est sûr que je leur mets pas de pression. C'est type, en fait, moi justement, je la soutiens, je leur reproche rien. J'en veux pas aux joueurs, j'en veux pas à l'équipe dirigeante sportive. J'espère qu'ils pourront évoluer dans un contexte sans trop de pression. En fait, il n'y en a pas de pression, on n'a pas d'attente, en fait, finalement. Donc, qu'ils fassent leur saison correctement, qu'ils soient sérieux, et puis voilà. Nous, ce qu'on leur demandera, c'est de respecter le maillot, de faire ce qu'ils peuvent. Par exemple, un joueur comme Harit, je ne l'en veux pas, il est moyen. C'est pas son niveau, l'OM. Mais par contre, il n'a pas un mauvais état d'esprit, j'ai rien à lui reprocher.
Non, il a donné aujourd'hui, il a donné avec ses défauts.
C'est ça.
Bon, après, attention, hein, ça fait 20 ans qu'on fait l'after, qu'on connaît très bien ce qui se passe à Marseille. Il y a aussi des limites dans la nullité, comme le dit Walid. Si le stade gronde et si tu as des groupes de supporters qui se sentent un peu humiliés, qui voient qu'il n'y a rien qui va et tout.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'ils aient le stade contre eux pendant toute la saison et que c'est une ambiance délétère en permanence.
Le OM Paris FC de la semaine prochaine, il est ultra important. Après, tu vas à Rennes et tu reçois le Paris Saint-Germain et il y a 3 semaines de trêve derrière. Si tu te plantes la semaine prochaine contre le PSG qui a très bien tourné contre Nice cet après-midi, déjà, c'est très compliqué.
C'est pour ça que je suis quand même surpris.
Ne tirez pas de conclusion trop vite.
Non, mais on ne tire pas de conclusion.
C'est la même histoire avec plein de.
On ne tire pas de conclusion, Daniel, mais je suis surpris quand même de ton optimisme ce soir.
Mais c'est pas, alors pour le coup, ça n'est ni du pessimisme ni de l'optimisme.
Non, mais si, tu nous demandes de temporiser, mais non, je te dis juste
optimiste.
Que moi, sincèrement, les trois.
Temporiser, ça veut pas dire. Oui. Temporiser, ça veut pas dire être optimiste.
Bien sûr, mais les trois prochains jours. Daniel, tu sais, c'est quoi l'attaque si Pacha part cette saison pour jouer la Ligue Europa et la Ligue 1? Tu le sais ou pas? Tu veux qu'on cite les joueurs? Parce que tu les critiques tous un par un depuis tout à l'heure.
Ouais.
Et donc, tu penses que l'OM va faire quoi cette année si Pacha part?
Mais en fait, on est dimanche, ça okay. T'embête comme ça d'attendre mardi soir?
On va attendre mardi soir alors.
Quand tu auras l'effectif clair, net, tu sauras quelles sont les forces en présence. On en parlera, on a le temps, t'es pressé.
Non, pas du tout.
Tu vas revenir dans l'after, tu fais pas ta dernière soirée. Hein.
Dans un instant.
Après, c'est
pas la last dance de Walid. On a l'impression que tu veux tout nous dire ce soir.
Non, mais en tout cas,
tu veux dire tout ce qui va se passer cette année. Tu veux faire.
Je me projette.
Ouais, c'est pas le musical. C'est pas. Après ça, t'es arrivé.
En tout cas, ce que j'ai vu ce soir sans Pacha O, m'inquiète, mes frères.
Aurélien, moi aussi. J'espère qu'il va. Moi, j'ai vu la presta.
Ce qui est vrai ce soir, pour être un tout petit peu optimiste, c'est que Timber et Emerson, tu vois qu'ils ont un pied dans l'avion et un pied sur le terrain.
Je suis d'accord.
Les deux, ils ont été nullissimes.
Je suis d'accord.
Mais dans ce contexte-là, à 44 heures de la fin du mercato, c'était peut-être aussi une erreur de les mettre sur le terrain. Parce que, bon, en plus, à côté de Kondogbia, c'était catastrophique.
Parce que t'as parlé avec Genesio, Daniel, t'as parlé avec Genesio, mais moi, j'aimerais bien parler avec Pachao et avec son entourage. Parce que je pense qu'il y a 4-5 jours, il voulait rester à l'OM. Ce soir, j'aimerais bien voir son avis.
Bah oui. Mais c'est pour ça que je te dis que d'ici mardi. Ça n'arrête pas c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ça, les discussions ne font que bouger. J'ai pas parlé qu'à Bono, il y avait également le staff dirigeant qui était là. Enfin, voilà, tu sens une inquiétude, tu sens surtout l'impatience de savoir exactement ce que va donner le bilan. Le bilan, ce sera mardi soir. Et à ce moment-là, on pourra discuter de façon un petit peu plus précise. Même, je pense que Genesio pourra s'asseoir, voir quels sont ses joueurs, son effectif. Voilà, ils ont joué 2 matchs. Le calendrier, évidemment, il est pas facile. Mais je pense que mardi, on aura une idée un petit peu plus précise. Et si tu veux faire des,
si tu veux faire des paris
sur l'avenir, on les fera mardi.
Non, on les fera mardi.
Et là, on parlera de
mardi.
Je trouve qu'enterrer l'OM à la cave ce soir.
Non, j'enterre pas. Non, je me projette peut-être de manière trop rapide. T'as raison.
Mais je comprends ton inquiétude.
Mais je suis pas optimiste.
Mais comme Pachao, on ne sait pas.
La même chose, qu'est-ce que t'as pensé du gardien, par exemple, Delange, qui va faire lui toute la saison?
Ah ben ça, alors attends. Si
attends,
tu...
attends pour l'évaluation dans quelques instants, faut qu'on fasse une.
Non, c'était pas l'évaluation, c'est pour une réponse, c'est plus simple. Je vais te donner le numéro de Kevin Diaz, donc 06 12 15 16 17.
Alors, 94.
Et puis tu discutes avec lui, d'accord?
D'accord. Que... Dans un instant, évaluation. Tiens, je précise que mardi soir, donc fin du mercato à 20h, on aura un after spécial mercato.
Bon, je lui envoie un message.
Avec Fabrice Hawkins, bien sûr, qui sera là. Allez, à tout de suite avec l'évaluation de Monaco-Marseille, puis Rennes et le Paris FC qui ont gagné aujourd'hui.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h34, on est là dans l'after avec Olivier Dacherchour, avec Daniel Riolo et Aurélien Tirsin qui sont au stade à Monaco. Avantage d'être au stade, ça permet de discuter avec les dirigeants, ça permet de voir le match un peu différemment que nous devant la télé. Et bien sûr, on capitalise sur votre présence au stade pour l'évaluation. Aurélien, tiens, vu que tu es un peu un bijou dans l'after, c'est à toi de démarrer. Tu connais les catégories, taulier, pied carré, boulet, Casper, Caladadraï. Le Caladraï, c'est le mec qui ressemble à un joueur de foot, mais c'est pas un joueur de foot. Si jamais t'en as un, tu peux y aller. Ouais. Donc, tu peux mixer, hein, Monaco, Marseille, on t'écoute.
Bah, taulier, écoute, Zakaria, quand même, côté monégasque, qui a tenu le terrain, bon, Fantomas, c'est quoi les catégories, je sais plus, mais le pire du pire, Kasper, c'est Kondogbia, Casper. Casper.
Non, Kondogbia peut pas être Casper. Oui, c'est raison. Tu l'as trop vu.
Oui, on l'a trop vu. On l'a beaucoup trop vu.
Hochberg, il est plus,
Casper, Casper, Emerson.
On peut faire une nouvelle catégorie, c'est le réveillère. Vous vous souvenez le...
Ah oui, les passements de Jean de Mancini.
Ah oui, c'est dur.
Mais... Ah ouais, non, mais Kondogbia, j'ai rarement vu une performance aussi dramatique parce que...
sur le but, hein.
Ouais, je reviens sur le dégagement que Monsieur Delageau fait retirer à Eric Dyer.
Boateng a été un grand joueur. C'est pour ça, à chaque fois qu'on se fout de sa gueule rapport à cette fameuse action contre Messi, Boateng a été un très grand défenseur qui, sur un soir, s'est fait humilier par le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas la même chose avec Kondogbia.
On s'y attendait un peu plus. Pour Kondogbia. Vraiment cataclysmique, défenseur central. C'est clairement pas son poste. Il a pas le niveau physique. Il a pas la vitesse pour se retourner. Et à ses côtés. Alors, Egan Riley, je sais pas s'il a pâti, justement, d'avoir personne à ses côtés. Mais bon, Casper aussi sur le premier but, il saute même pas. Paris Brunner, il marque de la tête. Emerson, Casper absolu.
Tu sais ce qui est le pire, c'est, alors bon, déjà le fait qu'il saute, c'est effectivement déjà t'es dans quelque chose d'assez grave, mais il semble se plaindre auprès du gardien. T'as l'impression qu'il est comme s'il rejette la responsabilité sur d'autres.
Et tout le monde se rejette la responsabilité.
Ils sont là, ils se regardent. Non, mais lui, il fait des grands gestes. Moi, le mec qui fait un grand geste quand il a été mauvais, c'est comme les gars au milieu de terrain qui font les moulins avant avec les bras, là. C'est, mais ferme ta gueule quand même, là, deux secondes. Enfin, c'est juste fou. Le centre, en plus, Golovin.
Il a 8 ans pour le faire.
Golovin, voilà, c'est l'été, il joue machin, mais enfin, il joue quand même pas très très vite, hein. Le centre, on a le temps de le voir venir, il se repositionne, le ballon, il prend, il enroule le pied droit, ça va. L'action, t'as l'impression qu'elle est au ralenti. T'es un vieux magnétoscope et t'es en train de faire l'action ralentie.
Ça suffit.
Ça centre et tout. Et l'autre, Brunner, il se lève. Et là, tu regardes, ils font quoi, les mecs, là?
Bah, c'est là les stats que je comprends pas.
Et
que
le pied, il se plaint. Et derrière, il se plaint. Il fait des grands gestes avec les bras. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais?
C'est l'autre qui comprend pas. Bruno Genesio qui te parle de stats. Aurélien, sur WhatsApp, on me dit. Ouais. Idir me dit, je crois que ce Tiercelin n'aime pas l'OM. Alors Tiercelin, c'est pas toi, c'est un navigateur.
Non, Marc Tiercelin, ouais, il était sur son bateau. Et à contrario, malheureusement, j'aime bien l'OM. Alors c'est pour ça, parfois on est plus dur avec les gens qu'on aime. Et quand on voit un match comme ça, ça fait un peu mal. Il y avait aucun des quatre de derrière qui était un vrai défenseur. Moi, Abdelli, je l'ai pas trouvé si nul que ça comme Walid. Donc je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus.
Si on compare, parce que je sais pas ce que vous avez pensé du match d'Angel Gomez, je pense que le pain sans sel a plus de saveur que le match d'Angel Gomez ce soir.
Ouais, c'est terrifiant.
Non, mais c'est sincèrement, Angel Gomez, tu l'as pas vu du match. Tu parlais de Golovin tout à l'heure au petit trot, mais Golovin, quand le ballon est dans les pieds, il y a quelque chose quand même. C'est un joueur de foot. Angel Gomez, qui lui aussi a des qualités, mais ce soir, tu l'as pas. En fait, il y a trop de mecs quand l'intensité, et pourtant, t'as pas le Monaco 2017 en face, là. C'est quand même, parce que là, on parle de l'OM, les blessures, les problèmes, les absences. Monaco, ils doivent vendre pour 100 bâtons cet été. Ils ont terminé 7e du championnat. Ils sont aussi en grande difficulté. Changement de coach. Donc, c'est pas un Monaco incroyable, hein. Et malgré ça, en fait, t'as des joueurs, et notamment Angel Gomez. Même si moi, Abdelli, je le mets aussi dedans sans le ballon. Hoiberg, Kondogbia. T'as ces mecs-là, Guiri. en fait, ça, quand ça va trop vite, ça va trop vite. Et c'est un problème, en fait, l'OM.
Mais il y en a un paquet qui vont pas vite à Marseille.
Athlétiquement, ces mecs-là, soit ne sont pas prêts. Quand Genesio dit Nadi blessé, Kondogbia blessé,
Angel Gomez crampé,
Angel Gomez crampé, Abdelli, on est obligé de le sortir à la mi-temps. Il y a un moment, ils sont pas prêts à l'emploi, ces mecs-là. Dès que c'est, alors c'est bien là, au Vélodrome.
C'est peut-être un peu leur nature. Hein, attention, c'est peut-être leur nature. C'est des mecs qui sont souvent pris.
Oui, tu peux ajouter Aguerd qui est pas non plus.
Aguerd blessé.
T'as beaucoup de nonchalants dans l'histoire. Hein.
Ouais.
Ou au minimum du pas très chalant. Hein,
Pour rendre un hommage à Louis.
Delange, il y a une question.
Je me souviens plus qui avait dit ça. Non, le nonchalant, c'est pas Louis.
Ah, c'est pas
le nonchalant, le pas très chalant.
C'est Sertic. C'est Sertic qui avait dit le pas très chalant.
Il y a une question sur le gardien aussi, Gilbert, toi qui aimes bien les gardiens.
Bah,
ils vont faire la saison avec Delange.
Moi, je cherchais pendant le match.
Non, je ne parle pas de Delange en l'absence de Kevin.
Oui, quand même.
En fait, toi, tu veux faire l'émission mardi, toi, en fait. J'ai compris, Daniel.
Non.
Mec, en fait, tous les dossiers, je ne parle pas ce soir.
Non, mais tu comprends bien que c'est un message qu'il lui a adressé parce qu'il nous a tellement dit que c'était un crack.
Et qu'il était meilleur que Rouli.
Franchement.
Sur le premier but.
Ma volonté de ne pas parler, c'est pour éviter.
Sur le premier but, il ne doit pas sortir.
Oui, il doit sortir.
Bien sûr, Egan Riley.
Après, il fait quelques arrêts aussi.
Enfin, les arrêts à 2-0.
Parce que toi, tu voulais que ce soit une passoire complète.
Les arrêts à 2-0.
Il croyait que c'était le retour d'Andrade. Mais non.
Moi, Delange, j'ai quand même beaucoup de doutes aussi. Parce qu'ils n'ont pas de deuxième gardien, c'est quand même Vermotte, 38 ans, qui était quand même le GO du groupe l'année dernière. Hein. C'est-à-dire que c'est lui le deuxième gardien.
Il voulait recruter Vermotte, un gardien, mais
c'est une boisson avant le.
Qui est parti en Allemagne à Francfort.
Oui. qui fait le Martini.
À Tobolo.
Oui, à Tobolo qui s'est échappé. Comme Todibo. Il y a pas mal de joueurs qui s'échappent.
Oui, vu le contexte.
Mais ils sont mis d'accord.
De Turquie? C'est une fois que tu as pris le sac de sport avec les billets dedans, après tu t'en vas.
Exactement, il est parti à Francfort.
Petite évaluation monégasque quand même, les gars. On n'a pas évoqué tous les jours, on peut rentrer un peu dans les détails parce que.
Camara, puis il va nous manquer. Hein. C'est comme Sangaré à Lens. On va devoir regarder sur Canal Plus et plus sur Ligue 1 Plus. Hein. Et c'est quand même. En plus, il va être remplaçant à Chelsea où il y aura 18 milieux de terrain.
Parce que toi, tu as des assurances.
Pour expliquer ce transfert, il ne va à Chelsea que si Enzo Fernandez
va à City. Chelsea. Ouais, va à City, ouais.
Exactement. Okay. Donc c'est un jeu.
Ce qui semble plutôt engagé.
De domino. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas engagé. C'était juste pour expliquer comment se ferait le truc.
Donc, mais qu'est-ce que j'aime le jouer
à City.
Après, ce qui est logique, c'est que Eladji Diouf à la CAN 2024 nous avait dit Camara, c'est un mélange entre Lampard et Gerrard. Bon, ben voilà, il est entre Chelsea et Liverpool. Je sais pas si.
Walid, tu m'autorises, je te demande d'attendre mardi, mais pour Camara, Lampard, Gérard, on attend 10 ans.
C'est un très bon joueur de Ligue 1, j'aime beaucoup, mais on va quand même pas blasphémer quand même, on va respecter quand même 2-3 les gens.
C'est tranquille.
Mais ouais.
Pourquoi Biret et Ablin étaient sur le banc?
Ablin revient de blessure. Et puis Biret,
revient de blessure. Et puis Biret, son frère, est en pleine forme.
Et Biret, son frère, depuis un an, quoi, en fait.
Ouais. Mais cette année, il comptait vraiment facile. Reprendre sa place. Mais si Brunner arrive et se révèle et enchaîne les performances comme ça, le pauvre Mika Biret, il va dire putain merde, je suis maudit moi, je vais jamais jouer.
Mais après Biret, il y a aussi un problème athlétique. Hein. C'est comme les joueurs de Marseille, c'est qu'il y a un moment jouer tout seul devant en Ligue 1.
Il va y avoir la Conférence League le jeudi soir.
Oui, voilà,
il y a pas mal
très
de
bien.
Joueurs qui pourront jouer cette compète.
Ça sera très bien pour la Conférence League, je pense, Biret.
Exactement.
Après Brunner, moi, j'attends confirmation quand même parce que j'ai fait le match contre Gornik Zabje, il rate quand même des choses étonnantes. Il y a des
aucun
contrôles
problème, Aurélien, on va l'attendre la confirmation.
Ouais, bien sûr. Non, mais ce soir, Biret n'est pas condamné à être remplaçant.
Et ce soir, il a fait bain de foule. À un moment, le public à Monaco, dans le COP des Ultras, scandait son nom. Brunner, il s'est retourné, genre waouh, c'est pour moi. Il était touché.
En plus, il a un blaze de superstar, Paris Brunner. Il a un flow et tout.
Il dégage un truc. Il a une belle attitude.
Ça peut devenir mon chouchou de l'année, lui. Ça peut devenir mon chouchou.
C'est sa soirée.
Moi, j'aime beaucoup Nazinho aussi. Qui a la même trajectoire que Brunner, qui était au Cercle Bruges lui aussi, dans le club partenaire de Monaco, et qui, contre le Havre, je l'avais trouvé très bon, latéral, qui monte à bon escient, connecté au reste de l'équipe, dur sur l'homme.
Moins un nom de star, malheureusement.
Oui, moins de star.
Il n'est pas arménien.
Non.
Non.
Si, bon escient.
Ah non, oui, monte à bon escient.
Mais défensivement, Walid, c'est un peu plus compliqué. Alors là, il a eu affaire à pas grand-chose, mais Kylian Abdallah lui a fait mal et encore une fois, en conférence, il a souffert.
Alors là, t'as une révélation, tu vois, mon cher Aurélien, dans la catégorie d'after, ta révélation, tu peux mettre Abdallah.
Ouais. Lui, ça peut être
absolument
un enfant de la crise.
Absolument, ouais, t'as raison.
Lui, ça peut être un enfant de la crise.
Pourquoi tu parles à Aurélien comme s'il a jamais mis les pieds dans l'after?
J'ai jamais fait
l'après-match.
J'ai noté. Ah non, pas si la semaine dernière, mais
t'étais pas.
Un après-match, ton Daniel Riolo, c'est pas un après-match.
C'est ça. On
embrasse bien.
Bon, voilà pour l'évaluation. Je pense qu'on a globalement fait le tour concernant cette rencontre. Demain, peut-être qu'il y aura des infos mercato qui vont tomber.
Et mardi, c'est mardi la grosse émission avec Daniel Riolo.
Mardi, hein. Voilà.
Ouais, faut venir mardi.
Il faut venir mardi, exactement.
Ouais, faut se brancher.
Dans un instant, le Paris FC Rennes. Aurélien, du coup, on te laisse. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Bonne soirée, les gars.
Et à très vite. Rennes qui gagne au bout du match face au Mans 3-2. Et le Paris FC qui bannisse tranquillement. On en débat dans quelques instants sans oublier l'actu mercato du jour. Il y a pas mal de trucs aujourd'hui, mine de rien, dans les autres clubs, en Ligue 1 comme à l'international. Et là, tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h45, Walid Achour et Daniel Riolo sont là. Tiens, un petit point sur la semaine. Demain, les drôles de l'âme à 20h. L'after à 22h avec le retour de Jean-Louis Tour après ses 4 mois de vacances. Autant dire que là, il va être à fond de balle. Donc mardi, fin du mercato. Et alors jeudi, on a un match de Ligue 1 jeudi. Préparez-vous. Lille qui joue jeudi face à Toulouse. Il y a une journée de Ligue 1 assez étalée entre jeudi et dimanche prochain, là, avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine sur 3 jours. Donc ça y est, on rentre clairement dans la saison. Et puis l'événement du mois de septembre, c'est quand même 25 septembre, première de Zizou.
Bien sûr. Voilà. France-Turquie ?
Turquie-France.
Turquie-France.
Avec 4 matchs de l'équipe de France, donc entre fin septembre et début octobre. Bon, dans vos 3 points, il y avait Rennes et le Paris FC. Démarrons par le Paris FC. Les gars.
J'étais à Jambon, moi.
Ah !
Ouais.
Très bien.
Ouais.
Il n'y a pas eu photo.
Ouais. Pas dingue le match, hein, global. Ouais. Mais le PFC est très cohérent. Ils ont fait le match qu'il fallait, avec encore une fois la patte Rosenior dans les 25 premiers mètres, où tu sens que face au pressing inexistant des Niçois, ils arrivent à faire progresser le ballon un peu moins sur.
Ils ont fait 5 bonnes minutes, non, quand même.
Nice, ouais, ça, ouais, je les ai comptés, je crois que c'était 4 minutes 30. Ouais. Mais après, dans les 25 derniers mètres, c'est un peu moins connecté.
Relance à chaque fois par le même circuit, à la Rosenior.
Oui.
Avec Rosenior, il fait toujours le même circuit.
Oui, avec
toute la saison.
Oui.
De la première à la dernière minute.
Oui. Avec Coppola que j'aime beaucoup. Moi, avec Lesmelou et Lopez qui ont fait aussi un gros match au milieu de terrain. Ils ont toujours les problèmes de latéraux parce que Noah Sanguine n'est toujours pas revenu. Après, devant, moi, je ne sais pas ce qu'on a pensé, Daniel, mais j'ai pas la vision de Pagis en numéro 10. Moi, je le préfère sur un côté. Je trouve qu'il a toujours les ballons d'eau au jeu. J'ai bien aimé Sinayoko qui a fait encore un beau boulot, un beau travail de sap. Voilà, non, mais le PFC a fait sa rentrée à Jambouin. Une victoire sur la fin de match où ça aurait pu être plus large. C'est une équipe niçoise qui fait très peur, même s'il n'y a pas encore les recrues, entre guillemets, Amoura et Wai qui est rentré en fin de match. Mais ouais, le PFC, 4 points, ils auraient pu faire 6 points en 2 matchs. C'est intéressant.
Bon, Daniel,
moi, j'ai bien aimé leur match sans qu'ils aient eu besoin d'être transcendants. Parce qu'effectivement, quand ils mettent le premier but, jusqu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'ils étaient en train de surclasser Nice. Ça, c'est clair et net. J'étais même au moment où c'est arrivé, en train de regarder Nice et en train de me dire, ouais, on annonce qu'ils sont totalement catastrophiques. Je regardais les joueurs, je disais, bon, il y a quand même 2-3 mecs.
C'est toujours la même question quand tu regardes Nice. Toujours.
Voilà, c'est ça.
Et après,
c'est
tu regardes le match.
Tu dis, il va rentrer dans cette équipe. Ils ont récupéré une des Chamiers qui est quand même un bon joueur. Enfin, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, parce que l'année dernière, elle a quasiment pas été là.
Ouais, mais après,
voilà, t'es en train de te poser ce genre de questions. Mais le temps que tu te poses ces questions-là, Nice, ils se sont noyés. Et sans que le PFC ait véritablement eu besoin de prendre la tête et de la coller sous,
ouais,
quoi.
C'est
parti au train, 2-3 petites accélérations de Kebal. En tout cas, il y a clairement de bonnes intentions dans cette équipe. Oui, alors t'as raison, Gilbert. Oui, c'est vrai que parfois c'est un peu télécommandé, Rosenior. T'as l'impression qu'il est sur le bord du terrain avec la télécommande, là, comme pour les drones, là. Tu te dis que c'est presque un peu trop visible parfois. En tout cas, dans un match comme ça, c'est suffisant. Oui, Lesmelou, à ce rythme-là, il peut jouer jusqu'à 50 ans parce que sa technique, sa vision.
Ouais, il a fait un gros match.
Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé, évidemment. Maxi Lopez, c'est la même chose. Ouais. Tous ces gens-là, tu les bouscules pas, ça va jouer peinard.
Exactement.
Pagis, sur ce match-là, j'arrive pas, puisque c'est ça la question que tu as posée, sur ce match-là, j'arrive pas à me dire que c'est pas sa meilleure position. Il faudra voir dans un autre match.
Moi, je pense que faux excentré, il serait meilleur après le problème.
Comme ça, ouais,
tu mets qui en 10 du coup?
C'est ça le problème. C'est que moi, je mettrais un terrain supplémentaire, soit Matondo, soit Zabi. Soit Zabi. Je mettrais un 4-3-3. Parce que Zabi, il a fait une super entrée.
Et effectivement, dans ces cas-là, tu mettrais une ligne de 3 avec Pagis, Kebal et Sinayoko, par exemple.
Ouais.
Ce serait plus ça. Mais ça veut dire qu'il y a des options. Ça veut dire qu'Orosenior n'est pas bête et que ces options, il va peut-être les étudier. Ça veut dire qu'il y a des joueurs dans cette équipe. C'est un bel effectif. Moi, en fait, ce qui m'inquiétait pour le PFC, c'est tout ce qui s'est passé dans l'intersaison. C'est tu te passes de Comboiré à Orosenior, que c'est pas du tout la même approche footballistique.
D'ailleurs, Lopez doit être content parce qu'il rejoue.
Ouais, non, mais même dans l'approche psychologique, tu vois, c'est pas la même façon de parler aux joueurs, la même façon de se préparer, la même façon de jouer le football. Donc il faut faire tout ça avec, il y a pas que des nouveaux joueurs. Donc t'as ceux qui étaient là l'année dernière, qui ont fait une fin de saison, franchement, en boulet de canon quand même avec Comboiré. Tu leur enlèves le coach, avec en plus tardivement. Tu prends Rosenior, il parle pas français. Ses adjoints parlent pas français. Le directeur sportif du PSC, il parle pas français. C'est quand même pas tout simple, ça. Alors, il profite, là, il n'y a pas eu d'adversaire difficile. La Nice est venue et très vite s'est transformée en victime. Donc, tout va bien. Mais ça demande quand même beaucoup de confirmation. J'aime bien l'équipe, mais on va
y aller. Faut être attentif, quand même. Ouais. Faut être attentif.
Ouais.
Bon, voilà donc pour le Paris FC qui a lancé sa saison à suivre, bien sûr.
Bon, pas content, Genesio, après la conf, pas content.
Ah.
Attention.
Pourquoi ?
Attention.
Pas content de quoi ? Pas content. Parce que dans la conf, il avait pas l'air particulièrement abattu, hein.
Ah, écoute, laisse Walid pour le côté drama. Moi, j'attends mardi, mais il y a un décalage horaire avec Boston. Mais attention, il peut se passer des choses dans la
nuit. Mais dans le positif ou dans le négatif ?
Dans les deux, je te jure, c'est incroyable la gestion. Non, mais c'est ça plutôt. Parce qu'on peut se renvoyer la balle, il va faire ci, il va faire ça, la tendance et tout, on n'en sait rien des tendances, ça change tout le temps en fait. Mais la façon dont c'est géré pour qu'un truc à 20h, à 22h30, et on attende que Boston, dans le décalage horaire, qu'est-ce qui va se passer quand il va se réveiller avec ses conseillers, quelles décisions ils vont appuyer sur
le bouton. Là, il est réveillé, il est 23-6.
Est-ce que l'offre.
Est-ce que l'offre,
parce que moi quand j'ai vu les dirigeants Marseille tout à l'heure, je dis mais de toute façon tout le monde sait très bien que vous allez pas refuser 30 millions s'il y a sur la table et tout. Et on me répond, l'offre est pas sur la table. Donc là moi je me retrouve comme un con quand je me retrouve face au il y a pas d'offre pour.
Bah, t'aurais dû dire mais si elle arrive, okay. vous pouvez pas refuser.
Non mais merci, tu crois que je suis con à ce moment-là?
Non mais des fois il faut que je t'aide un peu.
Parce que la réalité c'est que eux ils font tout pour pas qu'ils sortent. Sauf qu'à un moment donné, si l'Américain il te dit attends vous êtes en train de me prendre pour un con, on va être sur les calls, faut qu'on soit sur les visios, on veut le sortir, etc.
Ce début de saison jusqu'à mardi, ça peut être historique à l'OM.
Ah, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure.
Il peut se passer des choses.
Ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, Daniel.
Bon, hey, Rennes, on a fait.
Mais non,
fait,
mais toi,
on...
tu les envoies en Ligue 2, c'est pas pareil.
Je te dis que ça peut être très compliqué.
J'essaie d'être calme.
On a fait 40 minutes d'OM faisant
un peu Rennes. Parce que moi, je t'ai dit que ça allait être simple. On aura largement le temps de pleurer mardi soir. On sera avec le faux
Rennes-Ballement.
Et si tu veux, on pleurera tous ensemble.
Tiens, d'ailleurs, mardi, on a aussi Nicolas Tallardo qui sera avec nous. Intéressant.
Ok.
Je sais pas s'il pleurera pour l'OM.
Non. Bon, il pleurera sur la décision de la commission.
Attention,
de compétition.
Hein, pour la qualité de la Ligue 1, parce que ça aussi, après, il faudra quand même faire les gros débats, hein, de tout ce qui va se passer.
Ce serait dramatique.
Pour Ligue 1 plus, pour les finances, pour l'oseille, quand un club comme l'OM, comme l'OM,
même pour
sont
nous,
dans cette situation, mais c'est pas bon pour notre championnat, hein, quand même, faut être sérieux quand même.
Rennes, on en parlera donc mardi avec Nicolas Tavernot, mais parlons-en ce soir. Oui. Il y a la 96e face au Mans, c'était vraiment à l'arrache, c'est pas un grand Rennes.
Hein. Parlons d'être dramatique le match de Rennes, hein. Sincèrement. Mais je le dis. Moi, par rapport à.
Ce soir, il est vraiment dans le drame. Hein.
Ah non, mais. Mais moi, par rapport.
Il a passé une sale journée, oui.
Ah non, pas du tout.
T'as perdu au panier.
Ah non, pas du tout. Pour le coup, en plus, je sors d'un week-end où j'ai gagné. Mais. Et bien, en plus, avec mon ami Stephen Brun. On a mis des roustes. Mais pour revenir sur Rennes, non, mais les gars, attendez, excusez-moi, mais Le Mans. C'est une équipe de Ligue 2, Ligue 3, N2. Hein. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est composée de joueurs à 30% qui viennent du monde amateur. Il y a eu des moments, vraiment, de 2-0 à à 2-2 où ils ont la balle de 3-2 où c'était gênant ce qu'on a vu de Rennes, aucune maîtrise collective, il y a pas d'intention de jeu, c'est on revoit ce qu'on a vu un peu l'année dernière, on envoie des ballons soit sur le pôle, soit sur Altamari et c'est les individualités qui font la différence. Creswell a Hitboudlal derrière qui devait être, qui est quand même aujourd'hui une charnière centrale en valeur marchande.
On nous a bien vendu.
En valeur marchande, Hitboudlal, il vaut 30 ou 40 bâtons en Angleterre, à Hitboudlal et Creswell, ils l'ont acheté 25 bâtons. À chaque fois qu'il y a un ballon dans la surface de réparation, il y a une fragilité très inquiétante. Au passage, Francaise, il a envoyé un scud. Non, mais il a envoyé un scud à Hitboudlal en disant, oui, c'est très bien le potentiel que tu as, mais à un moment donné, tu vas pas nous coûter un but par match. Sincèrement, je sais pas si les auditeurs ont vu le match de Rennes, mais par rapport à moi, ce que j'ai envie de voir de Rennes cette saison, c'est-à-dire un futur top 4, j'ai été très très déçu. C'était vraiment sur les 20 premières minutes. Heureusement que Le Pôle est Le Pôle en ce moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un ballon dans la surface de réparation, c'est ficelle. Rongier qui met un but, c'est pas tous les 4 matins qu'il met un but aux 25 mètres, mais dans l'expression collective, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont subi face à une équipe, je répète, avec un coach qui fait un travail remarquable, Patrick Vidéra, vraiment c'est un super coach, et t'as pas le droit d'être, tu sais jusqu'à il y a un but refusé à la dernière seconde à 11 contre 10 quand même, parce que heureusement que Sidibé il rentre en 15 secondes, il prend un rouge, Le Mans est meilleur que Rennes à ce moment-là. Bon, après sur la fin de match, Rennes mérite de mettre le troisième but, ils ont des grosses occasions, Ludo Blas il touche la barre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas normal d'avoir aussi peu de temps fort quand tu es à la maison au Roazhon Park face à un promu.
Tu veux dire, Walid, que j'étais quasiment cette année en train de faire le pari que Rongier, Szymański, Thomasson, ça pouvait être l'un des meilleurs trios de la Ligue 1.
Moi, je l'ai pas vu aujourd'hui.
Mais
ça doit l'être normalement.
Moi, j'aime beaucoup ce trio.
Moi aussi. Mais et puis Soumaré, je répète, mais je pense que Flo va s'en charger, hein, parce qu'il a eu Altamari l'année dernière, mais le pauvre Issa Soumaré.
Non, qui, Altamari ne le lâchera pas.
Il lâchera pas. Mais le pauvre Issa Soumaré.
Je crois que Soumaré le lâchera pas non plus.
Non, mais vraiment, c'est.
Connaissant Flo.
Non mais c'était un joueur valeureux au Havre l'année dernière dans une équipe qui jouait le maintien. Il allait à la Castagne. Mais là, ailier, déjà qui jouait axial l'année dernière, ailier, c'est très compliqué les connexions. Vraiment, je sais pas comment ils vont faire. Il va falloir que le petit Mayenda il se révèle rapidement sur le côté.
Mercato, est-ce qu'on a le jingle Mercato ou on l'a pas? Allez, on l'a, c'est parti.
C'est combien?
30 000.
Allez, bien, j'ai envie de la prendre.
Mais attends, je vais te la marcher.
Tu l'as fait à combien là?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs là?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Ce soir, le japonais Ueda de Feyenoord arrive à Lille. Ce qui pourrait.
Très beaucoup.
Ce qui pourrait signifier peut-être que Fernandez Pardo pourrait partir.
Ouais.
Donc à suivre, on va voir ce qui se passe demain. En tout cas, voilà ce genre.
S'il le vend encore 70 millions d'euros, le temps c'est fort.
Ah oui. Donc Balerdi est prêté à la Roma, on l'a vite fait tout à l'heure, à près de 1 million d'euros avec option d'achat à 17 millions et prise en charge du salaire par la Roma, hein, donc c'est ce que voulait l'OM évidemment.
Ça c'est bien.
Mais la suite c'est moins bien.
Todibo, on en a parlé.
C'est 60% des matchs hein, apparemment.
Alors, tout le monde en a parlé. Je sais pas si vous,
comment on en a parlé. Il doit jouer 60% des matchs à la Roma pour que l'option d'achat soit levée. Et il y a grosse concurrence à la Roma. Il y a Indica, Hermoso. Ils ont acheté un Grec pour 20 millions d'euros là.
Impression qu'il les joue.
Ouais, il y a Mancini qui est le fils du coach. Attention.
Oui, Daniel.
Non, Todibo, je sais pas, tu dis on en a parlé, je sais pas ce que vous en avez dit. Moi, j'ai été très surpris de le voir débarquer à Lens, au-delà du côté Lens plus attractif que l'OM et tout ça. Moi, Todibo, pour moi, il a tout à me montrer. Pour moi, sa carrière me montre que c'est une verrue dans un vestiaire. C'est très dangereux ce que fait Lens à le prendre. Après, moi, je crois à Jean-Louis Leca, je crois à la direction Lens. Tout ce qu'ils font pour l'instant est parfait. Pour moi, c'est le premier vrai risque qu'ils prennent. Ce type-là est dangereux. Maintenant, c'est un gars qui a un potentiel, incontestablement. C'est un mec, c'est un vrai...
Pourquoi il est dangereux?
Mais il a jamais montré. Parce que tu partout il est passé.
Tu parles de Nice là avec l'histoire Galtier, etc.
Non, partout. Il s'est imposé nulle part ce joueur.
Oui, mais enfin à Nice il était moins. Il a une saison où il était quand même monstrueux. Ah, il est parti à West Ham pour 40 bâtons. C'est pas quand même. On parle.
Donc sa carrière elle est bonne pour
l'instant. Mais pour la Ligue 1, pour Lens aujourd'hui, c'est un super coup, Daniel. Todibo.
Je te dis pas que c'est pas un bon coup. Je te dis que ce gars-là, il va falloir le surveiller. Que si tu le surveilles et s'il se met dans le contexte lensois, aucun problème. Il a les qualités pour être
un
gros apport pour Lens. Maintenant, ses qualités jusque-là ont souvent été gâchées par une personnalité très compliquée.
Bah, pour moi, s'il a son meilleur niveau, c'est un super coup de Lens.
Quelques infos en rafale. Le Havre annonce une 12e recrue. J'ai jamais foutu un de recrue, le Havre. Il s'appelle Lamine Ndiaye, défenseur 1m87 qui a joué à Saint-Etienne et au Portugal. Strasbourg fait venir un latéral, l'Espagnol Joaquin Ozo, 10 millions d'euros quand même.
À Strasbourg, ils m'ont bien plu hier, Gilbert.
Latéral de Séville, ce qui pourrait signifier que Guéladoué pourrait partir. Ça pourrait être, d'après ce que j'ai compris, le remplaçant Guéladoué qui pourrait aller en Allemagne, à Leverkusen. Gabriel Jesus va signer à Barcelone. Donc, alors, Gabriel Jesus, 10 millions d'euros. Pas cher, non ?
Pas une si mauvaise idée, mais lui aussi, le problème, c'est physique.
Limite, vous aurez pu le prendre à Strasbourg.
Bah ouais, à ce prix-là, carrément. Trop vieux, peut-être.
Il va aller voir Gabriel Jesus.
Exactement. Et puis, Galatasaray annonce l'arrivée de Raphaël Léao. Galatasaray, ils ont payé 38 millions d'euros pour Léao, alors que Gabriel Jesus valait 10.
On peut pas avoir un spécialiste turc, là, dans la semaine, là, qui nous explique un peu Fenerbahçe, Galatasaray, les salaires.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, on comprend pas trop.
Mais... Ouais, non, mais par contre, la trajectoire de Cassandre
Léao. Si, David, il avait expliqué. David Sousan, il nous l'a expliqué.
Et puis, El Aïnaoui, qu'on suit de près dans l'after.
Ils viennent de Nancy, ils ont été à Lens, ça va. Ouais. Ouais.
Merci les gars, demain, drôle de la main 20h, after à 22h bien sûr, bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.